Alors c'est ça, je pense que j'ai les étudiants de Stéphane hein, ce matin. Est-ce que ça se peut? Non, vous n'avez pas de notes parce qu'on va vraiment compléter la leçon de la semaine dernière. On va essayer de la compléter. On est encore dans les conciles. Est-ce que mon cours est enregistré? Merci. OK, alors on va commencer. C'est vrai. Oui. OK, j'ai mentionné, oui, c'est ça, on termine la leçon de la semaine dernière, alors je n'ai pas apporté de nouvelles feuilles. Je n'ai pas pensé en apporter, par contre, pour ceux qui joignent à nous ce matin exceptionnellement. Bon. On va commencer tranquillement, puis on va prendre les joueurs qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Ça a de l'air. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour cette matinée où on va t'adorer, Seigneur, célébrer tes louanges. Parler de ta beauté, de ta grandeur, de l'œuvre que tu fais dans nos vies, dans cette Église, Seigneur, que tu veux faire autour de nous aussi. Tu es un Dieu merveilleux et l'histoire de ton Église, Seigneur, est belle malgré toutes ses difficultés, Seigneur, parce que l'Évangile s'est répandu envers et contre tous. Tu as su préserver, Seigneur, ta parole, préserver la saine doctrine à travers les âges. Tu as su, Seigneur, construire ton Église. Et Seigneur Jésus, tu es élevé. À travers l'histoire de ton Église, l'Église a su défendre une saine compréhension de ta parole pour reconnaître que tu es merveilleux, Jésus-Christ, et que ton œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre du Fils de Dieu. Je te demande, Père, de nous bénir ensemble ce matin, de nous édifier, de nous faire grandir dans notre foi. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, bienvenue à tous. Je sais qu'il y a quelques personnes qui se joignent à nous peut-être du cours de Stéphane. Donc, vous êtes dans le cours d'histoire d'Église. On est encore... on va terminer la leçon de la semaine dernière. Alors, on couvre la période de 312 à 500 après Jésus-Christ. Et donc, c'est une période où l'Église va à la fois être institutionnalisée, c'est-à-dire qu'elle est récupérée dans un sens par l'État, par Rome, puis en même temps, elle va s'organiser pour défendre la saine doctrine. Alors, quand on étudie l'histoire de l'Église, il y a des moments extraordinaires, puis il y a des moments troublants où tu dis, oh boy, une chance que le Seigneur a gardé ça parce qu'on perdait tout, là. Et il y a des moments comme ça, même dans cette période-là aussi, où il y a des jeux politiques. Lorsque je dis qu'il y a des jeux politiques, c'est que la semaine dernière, on a vu ensemble, pour situer ceux qui joignent à nous, là, la semaine dernière, on a vu ensemble la conversion ou la pseudo-conversion. C'est difficile de déterminer vraiment de Constantin, empereur romain. Et est-ce que Constantin a fait ça pour récupérer le christianisme qui était très, très, très présent dans l'Empire ou est-ce qu'il l'a fait par intérêt politique ou est-ce qu'il y avait une véritable conversion? Il y a certaines décisions qu'il a prises qui sembleraient nous indiquer qu'il y avait vraiment une conversion personnelle, puis en même temps, il y a des choses qui n'allaient pas du tout, où on voyait des jeux politiques qui étaient là. Mais une chose est certaine, c'est que à certains égards, la conversion de Constantin va servir le christianisme, parce qu'elle va protéger l'Église, elle va permettre à l'Église de la protéger physiquement des persécutions, lui permettre aussi de prendre de la place, de répandre ses enseignements dans l'Empire. Elle n'est plus une religion illicite, une religion cachée. Maintenant, elle a des droits. Et donc, dans ce sens-là, il y a des éléments positifs. Mais le christianisme n'a pas toujours profité d'être trop près des autorités. Et lorsque le christianisme devient près des autorités, la politique entre dans l'Église énormément. Et donc, là, il y a d'autres jeux qui commencent à être là. C'est une des choses qui vont commencer à ressortir comme leçon, l'importance de garder la séparation entre l'État et l'Église. On va commencer à voir cette leçon-là se manifester à travers certaines choses qui se sont produites à ce moment-là. Mais c'est juste à la réforme, vraiment, que la leçon va être saisie, être comprise. Et suite à la réforme, l'Église va chercher généralement à être séparée de l'État. Maintenant, encore aujourd'hui, vous allez voir je pense entre autres en Afrique, vous allez voir certains endroits où le chef de l'Église ou les pasteurs les plus populaires vont être très près des dirigeants du peuple qui vont, eux autres aussi, faire une profession de foi. Dans certains cas, tu regardes leur vie et tu dis « oui, c'est vrai ». Dans d'autres cas, c'est pas clair. Et donc, il y a cette espèce de jeu où la foi se place un peu au service du politique. Là. Puis, c'est extrêmement dangereux, évidemment. Donc, comme je le mentionnais, l'héritage de Constantin, empereur de Rome, c'est un héritage qui nous laisse ambivalent. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu d'autres choses qui étaient plus malheureuses. On a mentionné la semaine dernière qu'il a légalisé le christianisme, il a demandé que les droits des chrétiens soient respectés, des restaurations, tout ça, et puis qu'on puisse rendre même des choses qui avaient été prises aux chrétiens, qu'on puisse les dédommager. Maintenant, Constantin était un homme qui... C'est un des éléments qui nous fait vraiment douter, là, qui nous amène à dire, OK, il y avait un jeu politique. Constantin se voyait même comme le 13e apôtre, d'accord? Puis c'est le chef de... C'est l'empereur. Alors, c'est pas un homme d'église. C'est pas un pasteur d'une église. C'est pas un ancien dans une église. C'est l'empereur. Et il se voyait comme le 13e apôtre. Et donc, il va intervenir dans des conciles pour trancher des fausses, pour mettre de côté des fausses doctrines ou pour embarquer dans les questions comme ça. Il va convoquer un concile. Comme je vous dis, il y a eu du bon dans ça, mais il y a eu du moins bon aussi. Mais c'est ça. À partir du moment où lui a endossé le christianisme, comme je le mentionnais la semaine dernière, c'est là qu'on a commencé à voir vraiment des gens qui voulaient placer leur fils comme évêque, puis on commençait à acheter des positions. Si on réussissait à te placer comme gouverneur dans une province romaine, c'était bon. Peut-être aussi qu'on pourrait te placer comme évêque ailleurs. Et encore là, dans tout ça, on peut regarder ça juste avec cynisme. Merci beaucoup, j'ai du service ce matin. On peut regarder ça avec beaucoup de cynisme. Mais il y a des gens qui ont été placés comme évêques, qui étaient des vrais chrétiens, puis qui ont vraiment fait beaucoup de bien, d'accord? Alors, c'est pas nécessairement parce que c'est à travers un jeu politique que tu te trouves là que tu n'es pas chrétien. Au contraire, c'est possible que tu le sois. Mais aussi, évidemment, il y en a qui ne l'étaient pas du tout, puis qui étaient juste là pour le pouvoir qui venait avec. Oui? C'est pas lui qui l'a imposé, mais c'est lui qui a ouvert la voie à ce que le christianisme soit imposé. Et donc, parce que, OK, il y a deux choses. Si Constantin avait légalisé le christianisme, d'accord? Au Canada, le christianisme est légal. C'est une chose. Si Constantin avait seulement légalisé le christianisme, ça aurait été une chose. Mais le fait que Constantin commence à s'ingérer dans les décisions même doctrinales de l'Église, commence à se voir comme le protecteur de la saine doctrine, commence à convoquer un concile et des trucs comme ça, mais ça ouvre la voie à ce que le christianisme devienne la religion de l'Empire. Et donc, lui et l'empereur qui va le suivre vont mettre en place les choses pour qu'éventuellement, on en vient à ça un peu plus tard, là, mais ça devient illégal d'être païen et d'être soldat. Il fallait être chrétien pour être soldat, d'accord? Et donc, éventuellement, les chrétiens sont devenus les persécuteurs. OK? Fait que, bon, lorsqu'on va beaucoup plus tard, on pensait à l'Inquisition puis tout ça, là, c'est plus tard dans l'histoire. Mais si vous voulez voir le christianisme comme des persécuteurs, vous avez juste à penser aux Inquisitions, à la Grande Inquisition, d'accord? Qui est plus tard dans l'histoire, on va le voir. Et donc, c'est ça. On en est venu à un point où ne pas être chrétien devenait illégal. Maintenant, ça, c'est une chose. Puis là, si je veux me replacer dans le contexte des Saintes Écritures, parce qu'ils lisaient les Écritures, ces gens-là, puis ils voyaient Israël dans l'Ancien Testament. D'accord? Dans l'Ancien Testament, Israël était un État, d'accord, pas chrétien, mais qui adorait Dieu, qui servait Dieu. Et donc, les lois dans cet État-là devaient être au service de Dieu. Quand Christ vient, il est dans un contexte complètement différent, sous l'Empire romain, et dans ses directives qu'il donne, il dit « Payez l'impôt à Rome, respectez, servez. » Paul va dire plus loin, « C'est Dieu qui place le roi. » Oh, mais quel roi? Un roi chrétien? Non. Non, mais un roi droit juste? Non. Mais c'est Dieu qui lui a donné l'épée. Donc, on voit une distinction entre l'État et l'Église. D'accord? Maintenant, c'est ça. On s'en va là dans une autre direction complètement. Et le christianisme n'est pas une foi que tu peux imposer à qui que ce soit. On ne peut même pas l'imposer à nos enfants. D'accord? Alors, encore moins l'imposer à toute une ville. C'est impossible. Par défaut, par définition, ça va se corrompre très, très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des fausses professions de foi pour que tu arrêtes de les achaler et qu'ils puissent avoir des promotions. Ça va. Juste quelques éléments que je voulais mentionner par rapport à Constantin encore. Donc, c'est ça. Éventuellement, les chrétiens ou les chrétiens vont devenir les persécuteurs des païens. OK, on verra la suite un petit peu plus loin. Là, j'aimerais vous parler juste de quelques personnages importants encore. On a vu des pères de l'Église. On a vu entre autres les pères apologètes. Il y a quelqu'un qui peut me dire encore c'est quoi les pères apologètes? À part ceux qui ont étudié beaucoup l'histoire, il y a quelqu'un qui s'en rappelle? C'est quoi l'apologétique? Non? Ce serait apostolique. Si j'avais dit les pères apostoliques, ce serait ceux qui ont été proches des apôtres. Oui? Ceux qui défendent la foi, d'accord? L'apologie, c'est la défense. Alors, les pères apologètes, c'est ceux qui ont défendu la foi, comme Tertullien et d'autres. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques personnages importants du 4e siècle, des leaders qui ont eu un rôle important. Ambroise de Milan. Ambroise, qui a été l'évêque de Milan, qui était un homme très, très instruit, qui a été très influent. Et un petit peu plus loin, on va vous parler de l'arianisme, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi l'arianisme? Juste en une phrase, juste nous dire c'est quoi l'arianisme en une phrase. Oui. Arius? Parfait. Excellent. Alors, Arius, essentiellement, on va en reparler un petit peu plus loin, là, mais Arius est quelqu'un qui est sorti de l'Église puis qui niait la divinité de Christ. Lorsqu'on fait un lien avec les témoins de Jéhovah, ce n'est pas un lien là, à travers l'histoire, mais c'est qu'ils défendent une doctrine semblable. D'accord? Alors, Ambroise va travailler très fort à un certain moment donné. Il est très, très influent dans l'Empire. Il va travailler très fort pour reprendre l'impératrice Justine qui commençait à adhérer à l'arianisme. Alors, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important à cet égard-là. Il est devenu un conseiller très proche de l'empereur Théodosius. Et une des choses qui est marquante, justement, avec Ambroise, c'est que en trois siècles, l'Église qui était haïe par les empereurs, le christianisme qui était haï par les empereurs, persécuté constamment, lorsqu'on arrive à Ambroise, les chrétiens sont devenus des proches conseillers de l'empereur. Puis encore là, la ligne est fine, d'accord? Ce serait une chose d'être un proche conseiller. Et puis si vous suivez un petit peu la politique américaine, vous voyez que c'est des ondes qui sont très délicates. La séparation entre la religion et l'État est clair aux États-Unis, mais on voit les jeux qui se passent par derrière. Puis là, à un moment donné, vous voyez un pasteur baptiste faire une prière publique lorsque le président américain est mis en place. Puis vous dites, on est tous un petit peu sceptiques, puis on regarde ça, puis on dit, OK, c'est quoi les jeux politiques qu'il y a derrière cette affaire-là? Des personnes comme John MacArthur ont eu l'opportunité d'aller prier avec des présidents américains. Mais là, tu te demandes toujours, est-ce que le président américain le fait pour que les évangéliques sachent que John MacArthur est allé prier avec le président afin de gagner plus de votes au prochain. Vous comprenez? Il y a tout ça, là. Puis d'un autre côté, je veux dire, tu diriges un pays, puis tu demandes à rencontrer un pasteur pour avoir son avis sur une question morale. Est-ce que c'est mal? C'est quelque chose de bien? C'est génial? Vous comprenez? Fait que c'est des lignes qui sont délicates, qui sont complexes. Quand je vous parle de Mark Dever, des fois avec Nine Marks, qui est venu ici donner une conférence, Mark Dever est pasteur de la plus vieille église baptiste à Washington. Ça s'appelle l'église Capitol Hill Baptist Church. Donc, ils sont sur Capitol Hill. Ils sont littéralement à moins d'un kilomètre du Capitole, d'accord? Et donc, c'est un vieux, vieux, vieux bâtiment. Et ils ont régulièrement des congressmen qui fréquentent leur assemblée. Et Mark est toujours en train de... À un moment donné, il y a un congressman qui l'appelle, puis il dit « Qu'est-ce que t'en penses? Je dois me prononcer sur telle loi cette semaine. Qu'est-ce que tu ferais? » Tout ça. Et c'est intéressant. Il y a des belles entrevues avec Mark où il explique comment il conseille, puis comment il essaie de laisser l'individu aller selon sa conscience devant Dieu. Fait que, en tout cas, on rentre dans ces questions-là. Mais lorsqu'on arrive avec Ambroise, l'évêque de Milan est un proche conseiller de l'empereur Théodosius. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout ça. L'évêque qui a précédé Ambroise comme évêque de Milan était un évêque arien, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas dans la divinité de Christ. Et lorsqu'il est décédé, par vote populaire, la population a nommé, ils n'ont pas attendu que l'Église nomme, la population a nommé Ambroise évêque de Milan. D'accord? Parce qu'il voyait, alors il y avait quand même beaucoup de chrétiens dans la population à Milan, et il voyait cette fausse doctrine-là qui était à la tête de l'église de leur ville. Et dès que l'évêque est décédé, la population s'est soulevée, puis ils ont nommé Ambroise comme évêque. Et je trouvais ça intéressant quand même, là, celui qui a monté ce cours-là faisait juste la réflexion qu'on... vous savez, une assemblée baptiste, par définition, on est congrégationaliste. Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi être congrégationaliste? Si vous avez fait le cours de membre, vous savez c'est quoi? C'est la congrégation qui décide. Oui, venez nuancer ça un petit peu. Qu'est-ce que ça serait exactement? Quelle est la relation entre les anciens et la congrégation dans une assemblée congrégationaliste? Oui. Ils ont droit de vote. Oui. C'est elle qui va voter les anciens? OK. Alors, dans une assemblée congrégationaliste, la manière qu'on comprend les choses, c'est que Dieu donne les pasteurs, les anciens, pour donner la direction à l'Église. Mais quand les anciens veulent savoir s'ils sont en train de diriger l'Église dans la volonté de Dieu, ils vont instruire l'Église, ils vont enseigner l'Église, mais ils vont aller chercher l'approbation de la congrégation pour confirmer que l'ensemble des chrétiens voit aussi la direction de Dieu dans ce que les anciens sont en train d'apporter comme direction. Et ça, c'est une assemblée congrégationaliste. Il y a d'autres modèles de fonctionnement d'église où les anciens ont beaucoup plus d'autorité. Puis ils disent, voici, c'est là qu'on s'en va. Traditionnellement, les assemblées baptistes sont congrégationalistes parce que nous voyons, entre autres, dans les actes que la congrégation à Jérusalem est venue approuver, est venue mettre son sceau d'approbation, même lorsqu'il y a eu la consultation avec les apôtres sur la question des païens qui se convertissaient, qu'est-ce qu'ils devaient adhérer, tout ça, la congrégation a été appelée à mettre son sceau là-dessus. Et donc, nous avons la conviction que Dieu parle, non pas à travers un groupe d'hommes élus qui sont en avant. Ces hommes-là sont appelés à diriger l'Assemblée, mais Dieu parle à travers sa parole, à travers l'Église, à travers toute l'Église. Et donc, quand l'Église donne son assentiment, on voit en cela la direction de Dieu. Si je vous donne un exemple récent de certains impacts, des fois que ça peut avoir. Vous connaissez John Piper, de renommée? John Piper, très, très, très influent, là. D'accord? Mais voilà 6-7 ans, son assemblée propose quelqu'un comme pasteur pour un ministère particulier dans l'Église, tout ça. Les anciens sont tous d'accord. Puis là, la congrégation commence à poser des questions. Puis, ça n'a pas l'air d'être clair. John Piper se lève dans un meeting avec toute la congrégation, appuie la décision des anciens, puis dit « Je crois que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. La congrégation vote non. » Intéressant. Puis après, lui, il écrivait des réflexions sur ça. Et sa réflexion, c'était exactement ça. Il dit « Moi, je ne suis pas un pape, là. J'ai des choses à apprendre. Pourquoi est-ce que tous les anciens, on voyait que Dieu voulait ça, puis la congrégation ne le voyait pas? Est-ce que peut-être qu'on a mal communiqué, peut-être qu'on n'a pas bien discerné ce que Dieu voulait? » Mais il y a eu cette attitude de se soumettre au fait que Dieu a parlé à travers l'assistance, d'accord? À travers la congrégation. Fait que c'est pas évident pour des leaders, je peux vous le dire, là, c'est vraiment pas évident pour des leaders de diriger dans un contexte comme ça, mais nous croyons que c'est comme ça que les Écritures veulent que ça se passe. Et donc, on cherche toujours cet équilibre fin où on doit chercher une direction, on doit avoir une conviction, on doit bien communiquer, et on doit écouter l'Église pour que l'Église nous dise « Amen, amen, on voit que c'est ça que Dieu veut. » Je trouvais ça intéressant, il faisait juste l'observation qu'on a un petit peu ce phénomène-là qui se passe à ce moment-là, où la population de Milan, pouf, par un mouvement populaire, va prendre Ambroise, puis ils vont nommer évêque carrément. C'était une époque où la structure de l'Église était particulière. Comme je vous ai dit déjà dans le cours, ils avaient un évêque sur la ville. C'était pas un conseil d'anciens. Maintenant, probablement que l'héritage le plus important qu'Ambroise laisse à l'Église universelle, c'est que c'est lui qui a formé Augustin. On va parler d'Augustin dans quelques instants. Mais Augustin est possiblement le plus grand théologien de l'histoire de l'Église. Celui qui a eu le plus d'impact. Et donc, c'est lui qui a formé Augustin. Un autre personnage important de l'époque, c'est Jérôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard qui sait ce que Jérôme a légué à l'Église? Un livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Oui? La Vulgate. OK. Alors, Jérôme était un étudiant. Il a écrit des commentaires bibliques sur à peu près tous les livres de la Bible. Là, on est au 4e siècle, d'accord? Jérôme a été, en 374, il s'est rendu à Rome pour devenir le secrétaire du pape. Il y a déjà un pape à cette époque-là, Damas. Et c'est à ce moment-là qu'il a produit la traduction latine de la Bible, qu'on appelle la Vulgate. Puis la Vulgate est restée, dans le fond, l'Église catholique jusqu'à Vatican II se servait de la Vulgate. D'accord? On parle du 20e siècle. Pour les protestants, il y a des choses qui ont changé. Oui. Oui. Mais je vous avoue que j'adhère pas à l'idée qu'on est capable d'identifier à travers tous les âges une église en marge, une église marginale. Oui, je pense qu'il y a toujours eu des chrétiens. Parfois, ils étaient à l'intérieur de l'église, parfois, ils étaient à l'extérieur de l'église catholique. D'accord. D'accord. OK. Oui. Alors, ce que Jérôme lègue avec la Vulgate, est quand même important pour l'Église catholique parce que c'est la Bible officielle qui vont servir jusqu'à Vatican II. D'accord? À la Réforme au 16e siècle, dans l'Église protestante, on commence à traduire la Bible à partir des textes hébreux et grecs dans la langue du peuple. Mais je veux dire, jusqu'à Vatican II, l'Église catholique faisait ses messes en latin. Qui a connu ça, les messes en latin ici? Il y en a quand même deux, trois, j'imagine? Non? Bon. On avance dans le temps. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous pouviez comprendre quand vous allez là à part un rituel, hein? Je veux dire, c'est en latin, comprenez? Fait que le protestantisme, avec la réforme, a décidé, ils ont compris que si la Bible est là pour instruire le peuple, il faut que le peuple lise la Bible, puis que se l'approprie, puis que les gens grandissent dans leur foi eux-mêmes. Jérôme, c'est lui qui a produit la Vulgate, d'accord? Mais à l'époque, il faut comprendre que le latin était quand même une langue extrêmement répandue, d'accord? Alors, c'était le grec et le latin était quand même très, très répandu. OK, un élément important avec Jérôme, parce qu'on commence à approcher de la chute de l'Empire de Rome, d'accord? Et pour plusieurs chrétiens, lorsque Constantin s'est converti, ils ont vu ça comme Christ qui est en train de venir installer son royaume. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Ils ont dit, et voilà, on arrive au moment où Christ va revenir parce qu'on est en train de préparer le terrain. L'Évangile est en train de se répandre dans tout l'Empire, dans tout le monde connu de l'époque. Et donc, Christ va revenir. On arrive au summum de la gloire de l'Église. Puisque là, l'Église avait toute la liberté de faire la promotion, d'enseigner dans les écoles, d'être présente partout. un petit peu la même erreur, dans le fond, que les disciples faisaient lorsqu'ils attendaient de Jésus qu'il soulève une armée, d'accord? Ils attendaient Jésus le roi qui allait prendre un pouvoir politique, et lorsque Jésus est arrêté et crucifié, ils comprennent plus rien. Ils ne saisissent pas que le royaume que Christ est venu installer est quelque chose d'autre. Il y en a qui ont pris le cours sur le royaume. C'est déjà un petit peu plus clair dans votre esprit qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle du royaume de Dieu. Mais à cette époque-là, plusieurs, justement, ne saisissaient pas cette dimension très spirituelle du royaume. Et du fait que jusqu'à ce que Christ revienne, il va y avoir du bon grain, il va y avoir de l'ivraie, on ne pourra pas toujours discerner ces choses-là. Et c'est Christ qui va le faire à la fin. Jérôme, lui, était convaincu qu'on approchait là. On arrivait au summum de la gloire de l'Église parce que l'Église était attachée avec l'État et donc le christianisme était répandu partout. Jérôme va prendre une, comme on dit en québécois, une grosse débarque dans sa foi. D'accord? Il ne va pas renier le christianisme. Lorsqu'il commence à y avoir des révoltes à l'intérieur de l'Empire, on va voir ça un petit peu plus dans deux semaines, mais avec les Goths, les Visigoths qui font partie de l'Empire et qui commencent à se rebeller à l'intérieur de l'Empire, et puis il y a le sac de Rome, et donc il réalise que Rome risque de s'effondrer à un certain moment donné. Et pour Jérôme, ça remet tout en question. Est-ce que Christ est là? Parce que l'union entre l'Église et Rome, c'est le summum de la gloire, c'est l'Église qui est en train de christianiser la terre, d'accord? Et donc, ça, là, on parle d'eschatologie. Là, on est en train de parler d'eschatologie lorsqu'on parle de ça. Comment est-ce que tu comprends la fin des temps? Comment est-ce que tu comprends le retour de Christ? Comment est-ce que tu comprends l'accomplissement des prophéties? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire sur la terre? Un jour, la terre entière va être chrétienne. Et là, Christ va revenir. Quand toute la terre va être massivement convertie, Christ va revenir. C'était leur compréhension. D'accord, c'était leur eschatologie. Et au moment où ils voient l'Empire commencer à être ébranlé et se préparer à s'effondrer, à ce moment-là, eux-mêmes ont des doutes importants dans leur foi. Et puis, il va dire quelque chose comme « Comment la mère des nations, Rome, peut-elle devenir leur tombeau? » Parce qu'elle la voyait « Rome va répandre l'Évangile sur toute la terre. » Oui. Je ne remets pas en question le fait qu'il soit chrétien ou non. C'est ça ta question? Ben, c'est OK. Je vais juste répéter un peu ce que tu as dit. On soulève la question, est-ce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'est pas chrétien, le fait qu'il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas. Et c'est pour ça qu'on va parler de doctrine essentielle, d'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir être chrétien? Je veux dire, en somme, l'Évangile. Où est Christ dans cet Évangile-là? En somme, c'est ça. Comprendre certainement que la Bible est la parole de Dieu si je veux découvrir le vrai Évangile. Mais après ça, je peux errer dans plein de domaines, d'accord? Et ça c'est important, là. Les chrétiens, toujours à travers l'histoire, ont cherché à interpréter l'histoire, d'accord? Et je vous dis, les chrétiens ont annoncé plein de fois le retour de Christ. On en a eu encore un l'année dernière, il a fait des millions, hein, puis il a investi des millions là-dedans. D'accord? Est-ce que ça veut dire que ce monsieur-là est nécessairement pas chrétien? C'est pas ça que je suis en train de dire. Bien, en tout cas, on va laisser Dieu juger, parce que lorsqu'il commence à annoncer des dates, pour moi, il commence à rentrer dans la catégorie des faux prophètes. Mais le reste de sa doctrine est saine. Fait que je vais laisser Dieu juger qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Mais alors, c'est la compréhension de l'eschatologie. C'est la compréhension du retour de Christ. C'est la compréhension de l'accomplissement du royaume. D'accord? Ça ne veut pas dire nécessairement que ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Mais il y a une leçon importante qui va découler de ça. La chute de l'Empire va commencer à tracer la voie pour qu'on comprenne la distinction entre l'État et l'Église. Et c'est bon. C'est bon que l'Empire soit tombé à ce moment-là parce que ça va permettre justement de détacher éventuellement l'Église de l'État. Autre personnage important qui est certainement le plus important de cette époque-là, mais tout à l'heure j'ai mentionné peut-être le théologien le plus important de l'histoire de l'Église, c'est Augustin, que vous connaissez mieux sous le nom de Saint-Augustin. Si ça vous tente à un certain moment donné d'être édifié par un témoignage, lisez les Confessions de Saint-Augustin. Vous trouver ça en français n'importe où, en livre format poche, dans n'importe quelle librairie, Renaud-Bray, tout ça, vous allez trouver ça. Les Confessions de Saint-Augustin. Saint-Augustin est certainement le père de l'Église le plus influent, mais il a influencé dans plein de domaines, dans les domaines de l'éthique, de la philosophie. C'est un des penseurs qui a le plus influencé l'humanité. Au niveau de la philosophie, au niveau de l'éthique, définitivement au niveau de la théologie. C'est pas quelqu'un qui venait du milieu chrétien. C'est quelqu'un qui avait une vie très libertine, une vie de débauche. Il a eu un enfant illégitime avec une prostituée. Mais éventuellement, il s'est mis à étudier la philosophie. Et puis, il a trouvé que la vie ne trouvait pas son sens. La vie n'était pas heureuse, même s'il avait cherché à jouir de toutes ces choses-là. C'est lui qui va nous laisser cette idée-là que le cœur humain ne trouve pas la paix tant que Dieu ne vient pas y loger. D'accord? C'est d'Augustin qu'on trouve cette idée-là. Vous savez l'image un petit peu réductrice qu'on dit qu'on a un trou, un vide en forme de croix ou en forme de Dieu. Puis c'est bon, mais cette idée-là vient de Saint-Augustin. C'est lui qui l'écrit dans ses Confessions et dit « Notre cœur ne trouve pas de repos tant que tu ne viens pas y habiter. » Et donc, le cœur humain va chercher à travers toutes les passions à trouver toutes sortes de choses, mais c'est juste avec toi qu'on va trouver le repos. Vous allez lire ça dans les Confessions de Saint-Augustin, c'est très édifiant. Il y a vraiment des très, très beaux passages. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça, vous entendez la foi chrétienne énoncée des siècles en arrière. Vraiment des siècles, très très loin en arrière. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il a étudié sous Ambroise après sa conversion. Il a appris avec Ambroise la philosophie, comment défendre la foi aussi avec la philosophie. Augustin a été un théologien extrêmement brillant et c'est quelqu'un qui a su discerner l'incidence des fausses doctrines dans la vie chrétienne au quotidien. Et là, je vais essayer juste de vous donner un exemple ici. Par exemple, à cette époque-là, il y a eu un mouvement qui s'appelait les donatistes. Les donatistes, une des fausses doctrines qu'ils défendaient, c'est qu'ils disaient « pour qu'un baptême soit valable ou pour qu'un repas du Seigneur soit valable », il faut que l'évêque qui l'a fait, d'accord, qui a dirigé ça, soit vraiment un évêque officiel, entièrement pur, sans reproche. Autrement, ce baptême-là n'est pas valable. Autrement, le repas du Seigneur qui est pris n'est pas valable. Quelle incidence ça peut avoir, ça? Quelle implication pratique ça peut avoir dans votre vie si ça vous est arrivé à vous? Pardon? Exactement. Alors, tu te fais baptiser, tu fais ce que le Seigneur te demande, puis là, ton baptême n'est pas valable. Ajoutez ça au fait qu'à l'époque, une fois ta profession de foi faite, ton baptême, c'était garant de ton salut, ça commence à être angoissant, la patente. Fait que je veux dire, si moi, j'avais baptisé tout le monde ici, puis que dans 2 ans, j'abandonne la foi, qu'est-ce que vous faites? On recommence toute la gang. D'accord? Maintenant, c'est un peu drôle la manière qu'on le dit, mais ça a une incidence importante, là. Parce que là, on est en train de dire que l'autorité de Dieu et la valeur d'un acte religieux posé reposent sur le clergé, non pas sur la parole de Dieu. Alors, Augustin a attaqué cela, puis il a dit non. Tant que les symboles sont pratiqués selon les Écritures, il aurait beau être pratiqué par un tout croche, on a fait ce que Dieu nous demandait de faire. Le pouvoir et l'autorité se trouvent entre les mains de Dieu, non pas entre les mains des hommes qui exercent ces symboles-là. D'accord? Alors, Augustin a travaillé au niveau de la théologie, mais il cherchait aussi l'incidence des fausses doctrines dans la vie des croyants. Il a fait énormément de bien à l'Église. Augustin s'est attaqué au pélagianisme. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée, c'est quoi le pélagianisme? Tu peux nous le définir encore, oui? Oui, juste parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Mm-hmm. Alors, Pélage croyait que fondamentalement, l'être humain, assisté par Dieu, mais l'être humain est capable de trouver Dieu par lui-même. D'accord? Alors ça, c'est le fondement, c'est la base de sa fausse doctrine, là. Puis après ça, il y a tous les autres éléments, comme on vient de mentionner, qui en découlent. Mais donc, Pélage croyait que l'être humain n'est pas fondamentalement dépravé, totalement corrompu par le péché. Lorsqu'on arrivera à la réforme, puis on va arriver, admettons, avec Calvin, qui affirme « total depravity », en réalité, la dépravation totale de l'être humain, il s'appuie sur Paul dans Romains qui dit que « nul ne cherche Dieu ». Personne ne peut trouver Dieu par lui-même. Il faut que Dieu intervienne. Juste un petit instant. Oui. Oui. Maintenant, oui, c'est ça, mais on va le nuancer quand on va arriver à Calvin. Mais ce qui est important avec Pélage, c'est que Pélage ne croyait pas que l'être humain était totalement dépravé. Et donc, il croyait que chaque être humain a en lui-même suffisamment de bon pour trouver par lui-même Dieu. Il y a des incidences à ça, parce que ça veut dire que ton salut repose, oui, sur l'œuvre de Christ, mais fondamentalement sur ce que toi tu vas faire avec ça. Ça veut dire que ton salut éternel aussi en dépend, parce que tu pourrais éventuellement refuser ou s'y reculer dans cette démarche-là, et donc éventuellement perdre ton salut, puis peut-être retrouver ton salut après si tu reviens. D'accord? Ça a beaucoup d'incidences. Augustin s'est attaqué à ça, puis il a dit non, c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent qu'avec Adam, tout homme a été affecté par le péché. Tout homme est fondamentalement dépravé. C'était pas le terme « total depravity », là. Lorsqu'on va arriver à la réforme, ils vont juste affirmer certaines choses qu'Augustin a affirmées, entre autres, clarifier en allant voir les textes bibliques. Mais le pélagianisme disait « l'homme est fondamentalement bon, mais pécheur, et donc peut éventuellement par lui-même trouver Dieu. » D'accord? Alors, ça va ressembler un petit peu à l'humanisme. Nous autres, on ferait des liens. Il n'y a pas de vrai lien historique entre les deux, d'accord? C'est des fausses, c'est des idées qui arrivent à différents moments dans l'histoire, mais ça se ressemble. Ça pose la question sur l'idée que Christ est véritablement sauveur. Si l'être humain a du bon en lui, il y a une partie de son salut qu'il accomplit par lui-même. Et donc, Pélage voyait plus Christ comme un modèle que comme un sauveur. Il nous a montré le chemin à suivre plutôt qu'il est venu opérer le rachat de nos âmes, d'accord? Et lorsqu'on insiste dans les églises beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la doctrine puis une bonne compréhension du salut, une bonne compréhension de notre nature pécheresse, c'est justement parce qu'on veut éviter de suivre cette pensée populaire qui dit « Ben oui, Christ, c'est un modèle. C'est un modèle d'amour, c'est un modèle de don de soi. Puis il faut suivre le modèle. » C'est vrai, mais c'est impossible de suivre le modèle s'il ne te rachète pas. Tu ne pourras pas suivre le modèle si, premièrement, il n'est pas un sauveur pour toi. Avant d'être un modèle, c'est un sauveur. Et donc, Pélage voyait davantage Christ comme un modèle à suivre. Ce ne sera pas long. Augustin, pour attaquer le pélagianisme, s'est appuyé sur les Écritures, l'Épître aux Romains, plusieurs passages des Écritures, sur son expérience personnelle aussi, où lui-même voyait que si ça n'avait pas été par une révélation de la grâce de Dieu, il ne se serait jamais tourné vers Dieu. Et Augustin a clarifié l'idée que nous héritons de notre nature pécheresse d'Adam. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où Adam pêche, tous les hommes vont naître pécheurs, et par nature, nous sommes pécheurs. Donc, pour Augustin, tu n'es pas pécheur à partir de ton premier péché, tu es pécheur à partir de ta conception. D'accord? Ton premier péché va juste venir confirmer ta nature, ça va venir manifester ce que tu es. Si je voulais donner un exemple un peu simpliste, bien, tu sais qu'un chat est un chat lorsqu'il commence à miauler. C'est ça qu'il va faire. Il ne jappera pas. T'sais? Et donc, son idée, mais il était déjà un chat avant. Comprenez? Il n'est pas devenu un chat quand il s'est mis à miauler.
C'est parce que c'est un chat qui miaule et non pas parce qu'il miaule, c'est un chat.
Exactement. Alors mais c'est important, c'est vraiment important. Maintenant, ceux qui ont commencé à discuter de la théologie de la réforme, vous voyez les incidences de ça. Est-ce que je suis condamné et condamnable à partir de mon premier péché? Ou est-ce que je suis condamné et condamnable par nature à partir de ma conception? D'accord? Ça a des incidences même sur ces questions-là. Mais Augustin, justement, a affirmé que nous avons hérité de notre nature pécheresse d'Adam Et nous sommes tout de même entièrement responsables puisque nous confirmons notre responsabilité dès qu'on en a l'opportunité. D'accord? Si vous avez eu des enfants, vous savez ça. Une autre chose importante qu'Augustin va faire, c'est peut-être vous avez déjà entendu parler de la cité de Dieu d'Augustin. Augustin assiste à la chute progressive de l'Empire. Plusieurs évêques sont profondément ébranlés, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils se disent, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? On pensait que Christ était vrai, on pensait que Christ était puissant. Il est en train d'atteindre la terre avec le christianisme. La terre va être christianisée à travers Rome et on va faire des disciples et on va racheter dans un sens l'humanité. Mais l'Empire commence à tomber en morceaux. Et Augustin, à ce moment-là, il dit non, il y a quelque chose qu'on n'avait pas saisi. On n'avait pas saisi l'enseignement de Christ sur le royaume. Il dit, les chrétiens sont citoyens de deux cités. Nous sommes citoyens d'une cité terrestre, celle où nous vivons dans cette vie, et nous sommes déjà citoyens d'une cité céleste. La majorité des gens ici qui lisaient la Bible depuis des années, qui entendaient des enseignements, pour vous, c'est déjà des choses claires. Oui, c'est vrai, on est citoyens des cieux, on attend d'aller dans la présence de Dieu, on doit vivre ici comme des pèlerins. Mais vous voyez, tout ça découle de cette vision claire, de l'idée qu'on est citoyens de la terre, j'habite une cité terrestre, mais je suis en même temps citoyen des cieux et j'attends d'aller dans ma cité céleste. Et donc, j'ai pas à chercher à voir sur la terre cette cité céleste-là être partout dans la ville. Puis tranquillement, la ville de Longueuil va toute se mettre à se convertir. Le maire va devenir chrétien. Les décisions qu'on va prendre vont être des décisions chrétiennes. La morale du pays va être une morale chrétienne. Et les chrétiens ont toujours lutté avec cette tentation de dire « Oui, mais ça serait tellement... » Et les puritains, au début, à l'établissement des États-Unis, les puritains qui vont partir là, je fais un bond dans l'histoire juste pour vous montrer qu'on a toujours lutté avec cette idée-là. Les puritains qui sortaient de l'église anglicane, d'accord, sont partis d'Angleterre avec la bénédiction du roi à l'époque en leur disant, regardez, allez coloniser les États-Unis, allez coloniser notre colonie en Amérique. Vous allez être moins de troubles pour nous ici en Angleterre parce qu'il y avait des chicanes avec l'église anglicane puis tout ça. On les appelait à l'époque les Dissenters. Allez coloniser là-bas. Et plusieurs d'entre eux sont partis en se disant, on va être libre. Ils vont être tellement loin qu'ils pourront pas nous achaler. On va aller établir un pays chrétien. C'est ça qu'on va aller faire. Puis cette idée-là que Dieu aime l'Amérique, là, d'accord, vient de là. C'est cette idée que enfin, on va avoir une terre où on va pouvoir vivre selon les principes chrétiens, on va pouvoir les communiquer, on va pouvoir influencer. Et là, il y a toujours cette tension-là, où est-ce que c'est pas bon pour les chrétiens d'influencer l'éthique d'un pays? C'est définitivement bon. Est-ce qu'un chrétien pourrait pas être premier ministre? Est-ce que les chrétiens devraient pas aller en politique? Oui, ils devraient aller en politique. Mais en comprenant qu'on ne pourra jamais établir sur la terre la cité de Dieu. La cité de Dieu va être établie lorsque Christ va revenir. C'est tout. Augustin a saisi cela, cette dimension-là du royaume, qui est un royaume qui va être accompli juste au retour de Christ. Oui, François. Juste bien fort, s'il te plaît. OK, le commentaire qui est fait, c'est un chrétien qui s'en va en politique, comment est-ce qu'il peut rester droit, il va se faire envoyer. Ben moi, j'ai le goût de vous dire, un chrétien qui travaille dans la construction aujourd'hui, il est mieux d'être droit en titi, parce que ça se peut qu'il perde des jobs, tu sais. Puis un chrétien qui ne paye jamais rien en dessous de la table, aussi, ça peut être difficile, tu sais. Fait que... On pourrait le voir comme ça, tu sais, Mais alors moi je vous dirais c'est sûr qu'un chrétien qui décide qu'il s'en va faire une carrière politique, ça se peut qu'il y ait de la difficulté. Mais je vous dis, il y en a qui le font. On n'est pas beaucoup habitué à cette culture-là au Canada, d'accord? Aux États-Unis, et ça c'est important de faire cette nuance-là, là, parce que des fois j'ai l'impression que notre compréhension des États-Unis nous est plus apportée par Guillaume Lepage que par la réalité, là. Aux États-Unis, il y a beaucoup de... Mais on a une espèce de vision là, avec Stephen Harper, puis tellement peu de culture nous-mêmes pour comprendre la politique américaine. Il y a beaucoup de politiciens, il y a plusieurs politiciens, je devrais dire, américains qui sont chrétiens et qui sont pas en train d'essayer de prendre le contrôle de l'État à travers ça et qui comprennent bien l'équilibre entre les deux cités, d'accord? Et je les connais pas personnellement. Si je jase avec Mark, il va m'en nommer puis il va me dire, regarde, ils essaient pas de transformer toutes les États-Unis. Ils essaient d'avoir une influence là où ils sont, lorsqu'ils ont une loi à voter, lorsqu'ils ont une décision à prendre. Mais, comme dans tout enjeu politique, il y en a d'autres qui on dit que les candidats aux présidentielles américaines se découvrent toujours une fibre religieuse dans les quelques années précédant les élections. Alors, il y a ça aussi. Tu sais, fait qu'il il y a cette espèce d'opportunisme aussi. Mais c'est comme partout. C'est comme partout. Si tu décides que tu veux... Écoutez, je pense qu'il y a des médecins, moi, qui ont des choix, des médecins chrétiens qui doivent se trouver devant des choix éthiques extrêmement difficiles. Où tu sais, selon ta conscience, que tu ne dois pas faire ça, mais tu pourrais perdre ta carrière si tu décides de ne pas le faire. Fait que je pense que ça se représente aussi ailleurs. Mais c'est sûr que la politique, on sait ce que c'est. Il y a quand même beaucoup de jeux. OK. On va essayer de survoler les quatre conciles, d'accord? En 15 minutes, parce que la semaine prochaine, je veux avancer puis entrer dans la période du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge. Alors, comment est-ce que l'Église de l'époque s'y est prise pour défendre la saine doctrine? Les credos, premier credo qui est apparu officiellement, là, qui est publié en 110 après Jésus-Christ, Ignace cite le credo des apôtres, on l'a encore aujourd'hui. Un credo, c'est quoi? Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un credo? Ce qu'on croit, c'est une confession de foi. D'accord? Alors, on a une confession de foi ici à l'Église. Pourquoi est-ce qu'on a une confession de foi si on a la Bible? Ben, parce que, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il n'y a pas dans la Bible des entrées comme dans un dictionnaire. D'accord? Alors, il n'y a pas dans la Bible définition de Jésus-Christ. Vous n'avez pas ça. Définition du Messie, définition de Dieu, vous n'avez pas ça. On s'en va dans les Écritures, puis on comprend progressivement ce que l'ensemble des Écritures enseignent sur un sujet. Une confession de foi nous aide à dire, voici les doctrines fondamentales, il faut que ce soit clair, voici ce qu'on comprend que la Bible nous dit sur Dieu, sur l'homme. Est-ce que l'homme est totalement dépravé, ou est-ce qu'il a un petit bout de nature bonne à sa naissance? D'accord? Doctrine de l'homme. Ça, c'est les credos. Alors, l'Église a protégé la saine doctrine en adoptant des credos et en réunissant des conciles. Des conciles, c'était des réunions extraordinaires où on invitait, les évêques. On a déjà parlé de la structure de l'Église un petit peu, là, fait que je ne peux pas revenir sur toute la notion des évêques, mais ils convoquaient les évêques des principales églises à venir se réunir dans un concile. Et là, ils discutaient ensemble pendant des fois quelques semaines, des fois quelques mois, sur des questions doctrinales pour trancher ensemble puis dire, voici ce qu'on comprend que les Écritures disent. Et donc, les conciles ont été très importants. D'accord? On va résumer, là, c'est vraiment un résumé, ça ne représente pas tout ce qui s'est passé dans ces conciles-là. Quatre conciles, quatre questions qui touchent la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous entendez parler de la question de la divinité de Christ et tout ça, puis que ou de la Trinité, puis qu'on semble en faire un gros cas très important. Ça a toujours été très important à travers l'histoire de l'Église. Alors, quatre conciles. Le premier, est-ce que Christ est Dieu? On va adresser la question de l'arianisme, tout ça, dans ce concile-là. Deuxième concile, OK, Christ est Dieu, est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est entièrement homme pour de vrai? Troisième concile, comment est-ce que c'est la nature divine et la nature humaine de Christ cohabitent ensemble? Quatrième concile, quel est le langage, quels sont les mots justes pour rendre ce qu'on croit? D'accord? Alors, par exemple, il y en a des fois, vous allez trouver des chrétiens qui vont dire, oh, mais le mot Trinité n'est pas là dans la Bible, fait qu'on ne devrait pas s'en servir. Lequel tu vas te servir pour définir ça? C'est tri-unité. D'accord? L'Église a toujours utilisé ce terme-là parce que c'est celui qui résume le mieux dans notre compréhension ce que les Écritures enseignent sur la personne de Dieu. Donc, les mots en théologie sont importants parce qu'ils portent un sens et clarifient la pensée, expriment ce qu'on est en train de dire. Et lorsque les mots perdent leur sens, tu ne sais plus ce que tu es en train de dire. Par exemple, une des grandes discussions qui se fait dans les milieux théologiques actuellement, c'est qu'est-ce que ça veut dire évangélique aujourd'hui? C'est de plus en plus large, évangélique. Ça veut dire tout et n'importe quoi, là. Joel Osteen, c'est un évangélique. Je ne prêcherai pas sur le même podium que lui. Celui qui a écrit « Votre meilleure vie maintenant »,« Your best life now » avec l'évangile de la prospérité. C'est un évangélique. Ben, je suis désolé, mais il enseigne des choses qui sont vraiment, vraiment graves. Alors, évangélique est en train de perdre son sens, on ne sait plus ce que ça veut dire. D'accord? Par définition, ça serait simple de savoir ce que ça veut dire évangélique. Évangile, évangélique, un évangile clair, on défend l'évangile. D'accord? Mais les mots peuvent perdre leur sens. Alors, dans le quatrième concile, ils vont préciser les mots à utiliser pour comprendre qui est Christ, quel est son rôle. Et lorsqu'on lit ces choses-là pour les premières fois, on peut avoir l'impression que c'est des débats de nerds là, qui ne savaient pas quoi faire de leur temps, mais ça a une incidence extrêmement importante sur toute l'histoire de l'Église. Oui, Robert. Joel Austin. Oui, bien, c'est pas. Je comprends ton point, mais au contraire. Oui, Robert dit la foi évangélique est très influencée par l'Amérique du Nord puis les théologiens nord-américains avec l'abondance qu'on vit. Mais au contraire, c'est ça le problème. C'est un des plus gros problèmes. En Amérique latine, l'Évangile de la prospérité a un succès phénoménal. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire à des gens qui sont pauvres et qui sont malades que si tu crois en Jésus, ton compte de banque va commencer à se remplir puis tu vas guérir, bien, ça se peut que tu aies du monde qui te suive. T'sais. Mais si tu leur dis « Non, suis Jésus », ça va amener la division dans ta famille, ça se peut que ta famille te rejette. Bon, ça, c'est un autre discours. T'sais. Ça motive moins le monde. Fait que c'est vrai que l'Évangile de la prospérité vient essentiellement des États-Unis. Mais c'est très populaire en Afrique, c'est très populaire en Amérique latine. Parce que, et c'est ça le problème, c'est que on envoie des missionnaires, puis là, l'Évangile se répand à une vitesse incroyable, mais les églises sont fragiles parce qu'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées avec le reste. Fait que quand, la semaine dernière, M. Francis est en avant, puis il nous parlait de son ministère qui s'en va faire au Honduras pour former des pasteurs, mais c'est ça, si vous rencontrez des pasteurs qui ont lu la Bible, puis qui ont lu des livres populaires, puis c'est avec ça qu'ils enseignent leur Église. C'est ça qu'ils vont enseigner. Mais si vous commencez à leur donner un cours d'histoire de l'Église, puis qu'on commence à voir certaines fausses doctrines qui ont apparu à travers l'histoire de l'Église, leur incidence, oups, là, tu peux leur donner du discernement pour qu'ils puissent percevoir ces choses-là. Quand ça commence à circuler dans l'Église, oups, on les identifie, on les discerne, puis on s'en va tout de suite avec les Écritures corrigées. Oui. Non. It's a Texan boy. He's from Texas. Avec un beau gros sourire. Mais je veux dire, l'Évangile qu'il définit, c'est le même que vous et moi. D'accord? Alors, si vous prenez juste la définition du salut, si vous prenez juste la définition de Jésus-Christ, c'est le même. Qu'est-ce que l'Évangile apporte dans la vie d'un individu? Alors, lui voler, par exemple, dans Ésaïe 53, tout à l'heure, je vais citer Ésaïe 53 dans la prédication. Lui va lire dans Ésaïe 53 que la guérison que Christ apporte est aussi une guérison financière. D'accord? C'est pas faux. C'est pas faux. Si tu deviens chrétien puis tu pêches moins dans tes finances, ça se peut que ça amène la santé financière. T'sais? Moins de dettes, plus de maîtrise de soi. Donc, dans ce sens-là, c'est pas faux. Puis, éventuellement, au retour de Christ, oui, on va être prospère matériellement. On va être libéré de ce monde où il y a tous ces combats, ces luttes, la pauvreté, la misère, la maladie. On va être libéré entièrement physiquement aussi. D'accord? Mais en tout cas, c'était pas, je ne voulais pas faire un cours sur Joel Austin. Si vous me voyez circuler avec son livre, c'est juste pour comprendre ce qu'il enseigne. Alors, les quatre conciles. Concile de Nicée en 325. Le concile de Nicée va adresser la première question. La controverse a commencé vers 318 environ, à Alexandrie, où il a commencé à avoir un débat entre un ancien d'Alexandrie, qui est Arius, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est très influencé par toute la philosophie de Platon, et qui a... Arius, dans le fond, voulait défendre le monothéisme. Et il dit « Dieu est Dieu, Dieu le Père est Dieu, et il ne doit pas être confondu avec Jésus-Christ. » Et donc, on ne devrait pas parler de Dieu le Fils. C'est la suprématie de Dieu le Père que Arius voulait défendre. Et dans son esprit, dans sa logique, C'était pas logique de dire « je suis monothéiste » et d'être trinitaire, de croire dans la Trinité. Ça ne rentrait pas dans sa logique. Et vous allez voir que pour plusieurs de ces fausses doctrines-là ou des débats qu'il y a eu autour de ça, les gars approchent les Écritures avec un raisonnement logique plutôt que de dire « OK, fais juste mettre ça de côté un instant puis lis la Bible. Dis-moi si la Bible dit ça. Si la Bible dit ça, après ça, tu essaieras de comprendre pourquoi la Bible dit ça. Puis ça se peut que tu sois à un certain moment donné obligé de dire « Dieu est Dieu, je suis un homme, il y a des mystères dans les Écritures. Je vais garder cette position-là, cette attitude-là devant les Écritures. » C'est ce qui va se passer en définitive à travers les conciles, d'accord? C'est pour ça que l'arianisme va être finalement réfuté, rejeté, reconnu comme une hérésie. Mais c'est cette approche-là. Vous allez vivre la même chose si vous discutez avec un musulman, mettons, sur la personne de Christ. Un musulman, ou juste l'idée que Dieu est un être personnel. Pour eux, c'est pas logique que Dieu soit un être personnel, qui entre dans une relation personnelle avec nous. C'est un être qui est tellement plus saint, plus juste, plus droit que nous, qui peut pas être proche d'être faillible, petit comme nous. Et puisque ça rentre pas dans leur logique, ils vont pas se rendre jusque-là. D'accord? C'est la même chose qui se passait avec Arius par rapport à la Trinité. Arius n'acceptait pas, ne comprenait pas l'idée que Christ pourrait être Dieu sans que ça porte atteinte à la grandeur de Dieu lui-même. Alors, il a proposé que Jésus était un être créé, qui n'avait pas existé éternellement, et donc qui n'était pas divin comme Dieu le Père est divin. C'est l'évêque... où est-ce qu'il était, lui? Oui, Alexandrie. L'évêque d'Alexandrie, Alexandre, et son archidiacre, pour ceux qui connaissaient bien l'Église catholique, son archidiacre Athanase, qui se sont opposés fermement. Athanase a été un brillant défenseur de la sainte doctrine. Ils ont lutté très fort. En 321, il y a un synode qui était plus petit qu'un concile qui a été convoqué pour pouvoir justement adresser cette question-là. On a rejeté l'enseignement d'Arius, mais c'est revenu très, très rapidement. Là, on est en 321, ce qui fait qu'en 325, Constantin, qui voit que l'arianisme est en train de venir ébranler toute l'Église, décide de convoquer un concile. Au moment où Constantin convoque son concile, Constantin est arien. D'accord? Il penche plus vers cette compréhension-là de Jésus-Christ. L'idée de dire que c'est pas Dieu le Fils, les Écritures n'enseigneraient pas ça. Il penche plus de ce côté-là, il est plus sympathisant vers eux. Athanase va défendre très, très fortement la divinité de Christ, à partir des Saintes Écritures, il va dans les Écritures, il cherche à le démontrer. Un des arguments d'Athanase aussi, c'est que le salut accompli par Jésus-Christ, pour qu'il soit valable, devait venir de Dieu lui-même, pas d'un homme. Il fallait donc que ce soit Dieu le Fils qui soit là. Et c'est ce qui était cru généralement dans l'Église aussi à cette époque-là. Et Athanase, avec l'aide d'Alexandre, va convaincre tout le concile, presque la totalité du concile, Constantin aussi, et à ce moment-là, l'arianisme va être déclaré comme une hérésie. Arius va être chassé de l'Église à ce moment-là. Mais en réalité, il y avait des jeux politiques, comme je vous dis. Alors, tous les évêques ariens, très, très rapidement, Constantin va recommencer à les nommer dans différents postes par en arrière. Oui, on va terminer avec vous. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est deux conciles plus tard qu'on va finalement régler la question de l'arianisme. Mais au concile de Nicée, déjà, c'est déclaré une hérésie. Ça va continuer à se propager quand même dans l'Empire. On va voir ça dans deux semaines. La semaine prochaine, il y a un cours ici, mais c'est mon frère qui va venir enseigner. Hugo va être en visite la semaine prochaine. Alors, Hugo va prendre le cours et puis il va aussi prêcher. Puis là, tantôt, vous regarderez l'annonce, là, parce que je suis certain qu'il y en a un, c'est sur l'évangélisation, l'autre, c'est sur la prière ou vice-versa. Je pense qu'il va enseigner le cours sur la prière puis il va prêcher sur l'évangélisation. On va regarder tout ça, je vais vous le mentionner. Ce ne sera pas l'histoire de l'église de Rivière-du-Loup. De Rivière-du-Loup. On mentionnera ça plus tard lorsqu'on va être rendu plus loin dans l'histoire de l'église. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, Seigneur, à travers toute l'histoire de ton peuple, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, Jésus avec 12 hommes qui étaient sous l'opposition des autorités, du clergé, à travers toutes les Écritures, on voit que ton histoire est une histoire marginale où tu vas, tu cherches les élus, Seigneur, tu défends ton Église. Et simplement de voir aujourd'hui, en 2012, la présence du christianisme dans tellement, tellement de pays sur la terre et qui est en train de se répandre en Asie, en Afrique. C'est vraiment un miracle, Seigneur, que l'Église ait survécu malgré toutes ces attaques. Et je veux te bénir pour l'histoire de ces hommes qui ont su s'opposer comme Athanase à une époque où sa vie était certainement en péril puisqu'il savait qu'il allait contre l'inclinaison de l'empereur, de bien des évêques dans l'Église, Seigneur, mais il a su se tenir debout pour ta parole au péril de sa vie, Seigneur. Que ces hommes soient pour nous une inspiration, Père, pour plonger dans tes Écritures et nous attacher à ta parole premièrement, d'abord et avant tout. Merci, Seigneur, d'avoir protégé, établi la saine doctrine à travers les siècles. Merci pour cette histoire. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Excusez-moi.